Plein Feu, une émission de Catobel, Angélique Tasio.
Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour l'émission Plein Feu, en compagnie aujourd'hui de Pauline Ponce. Bonjour Pauline Ponce, vous êtes historienne de l'art et conférencière. Depuis 20 ans, vous initiez des adultes, et notamment des chefs d'entreprise, au monde de l'art. À côté de ce rôle d'initiatrice en art, Pauline Ponce, vous êtes aussi une fine connaisseuse de l'art religieux, ayant grandi entre une mère catholique férue d'art roman et un père de confession protestante. Vous vous attaquez à un sujet bigrement difficile, puisqu'il s'agit de distinguer un chef-d'œuvre d'une croûte. D'où vous est donc venue cette idée audacieuse ?
D'une expérience professionnelle, puisque depuis 20 ans, je sillonne la France et même l'Europe en me rendant dans des musées avec des chefs d'entreprise qui me commandent pas forcément une expertise sur la croûte et le chef-d'œuvre, mais que j'accompagne pour les initier, on va dire, à l'art. Et bien souvent, auprès de ce public, justement, j'ai des questions qui tournent autour de cette question du, au fond, comment savoir si c'est un chef-d'œuvre, est-ce que je perçois vraiment tout ce qu'il faut. Ils ont souvent un sentiment d'illégitimité devant les œuvres. Ils pensent que c'est quelque chose qui est réservé à des spécialistes, par exemple, et tout mon travail consiste plutôt que de les conforter dans cette croyance, de les amener par eux-mêmes à apprécier l'art en ce qu'il peut leur apporter même quelque chose à la fois de personnel et peut-être même de professionnel.
Alors cette question de la valeur de l'art, hein, d'une valeur éventuelle, elle est somme toute relativement récente.
Vous voulez parler de la valeur marchande de l'art ?
Non. Ah non. Le fait
de se poser cette question.
Oui, si une œuvre a une valeur réelle, si c'est un chef-d'œuvre, c'est une question.
Ça traverse quand même la pensée d'un certain nombre de philosophes occidentaux, et on pense à Kant au premier chef, puis à Hegel quand même. Ça a énormément occupé. La réflexion en tout cas de certains de nos philosophes occidentaux, mais je dirais qu'effectivement cette question s'impose davantage dans les esprits au moment de l'explosion des musées et de leur fréquentation surtout.
Et donc là on peut plutôt situer le milieu du 19e.
C'est ça, à partir en gros des années 1830.
Le Louvre va jouer un rôle particulier avec le fameux salon qui remporte un franc succès.
Absolument, oui. Il y avait traditionnellement des expositions qui se tenaient au Louvre à l'époque des rois de France déjà, depuis le XVIIe siècle. Mais au lendemain de la Révolution française, on a ouvert le salon carré, d'où le nom aussi de salon, à un grand nombre d'artistes qui arrivaient à passer entre guillemets le cap du jugement, justement des jurys officiels qui siégeaient pour faire une sélection, voilà, précisément des meilleurs artistes selon leurs critères, bien sûr.
Pour seconder les spectateurs, les témoins de ces œuvres d'art, sont apparus à la fois des critiques d'art et des experts. Et leur rôle va d'emblée être important, et on le voit encore aujourd'hui.
Oui.
Ce sont des influenceurs.
Ce sont des influenceurs. Et voilà, ils peuvent avoir différentes places dans la société parce que certains d'entre eux sont très célèbres. Ça a commencé avec Diderot au XVIIIe siècle. Il y a eu Zola qui a commencé aussi comme critique d'art. Et puis peut-être le plus célèbre d'entre tous, c'est Baudelaire. Baudelaire qui a beaucoup aussi joué ce rôle en son temps.
La peinture religieuse a marqué les esprits. Elle va tomber dans une forme d'oubli ou de non-pratique. On la reconnaîtra comme un chef-d'œuvre temporel, enfin marqué par une certaine temporalité. Mais pourquoi est-ce que les artistes vont se détacher de ce type de peinture ?
Ah ben, je pense que ça correspond vraiment à un mouvement plus général, c'est que l'Église elle-même perd sa place, on va dire, dans la cité au lendemain de la Révolution française. Donc, faut vraiment se rappeler que sous l'Ancien Régime, elle constituait un des commanditaires principaux avec l'aristocratie. Et puis, la Révolution récupère les biens et les redonne. Enfin, en tout cas, ça c'est le discours républicain. Les redonne au peuple. Le musée devient ce lieu de formation du citoyen. Et du coup, l'Église n'a plus ce rôle à jouer non plus de propagande. Alors, quand je dis propagande, je pense au terme étymologique, hein, propagere fides, la peinture ayant été pour l'Église un levier extraordinaire. La peinture et la sculpture, hein, si on pense au XVIIe siècle et à tout l'art de la contre-réforme. Et évidemment qu'au lendemain de la Révolution française, l'Église est affaiblie et en tout cas reléguée à un rôle mineur. Et de fait, elle n'a plus ce pouvoir de mécénat qu'elle avait avant.
Pendant tout un temps, la tradition et la référence, y compris religieuse, a été rassurante en termes de critères de sélection d'une œuvre.
C'est vrai. Rassurante, et puis aussi il fallait prendre en compte le contexte dans lequel on découvrait ces œuvres. Le Caravage à Rome est présenté dans des églises, le Bernin aussi. Donc je pense que voilà, l'œuvre avait aussi une aura particulière dans un écrin particulier qui induisait aussi une attitude particulière. C'est un lieu de prière, l'église, donc c'est un lieu aussi de silence, et ma foi, c'est quand même un comportement qui peut être aussi favorable à l'admiration d'un chef-d'œuvre. Donc il y avait quelque chose, voilà, qui tenait, ça tenait ensemble. L'art s'appréciait dans un contexte aussi religieux pour ces raisons-là.
Pauline Ponce, je vous propose de marquer une première pause musicale.
Why do I go here all alone? Oh, my.
Pauline Pons, peut-on être touché par une œuvre sans la comprendre? Ah, ça, c'est une question qui mérite un développement. On peut être touché, je pense même que c'est le propre de l'art de toucher avant même de comprendre. on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs nous tous on a fait l'expérience, on a des larmes qui viennent, on a des palpitations, il y a même des syndromes stendhaliens où on a le vertige, enfin vraiment quelque chose de physique très fort. Même les grands historiens d'art, justement, qui sont des savants, quand ils parlent de leur chef-d'œuvre, on croirait qu'ils nous parlent de leur maîtresse. Hein. C'est vraiment quelque chose qui s'apparente à un coup de foudre, l'approche de l'art, de leur maîtresse ou d'un dieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui dépasse la rationalité.
Est-ce qu'on peut dire que les musées sont d'une certaine manière de nouveaux temples, avec leurs codes ?
Je pense qu'ils l'ont été, en tout cas dans la période qui a suivi la Révolution française, quand on regarde l'architecture des musées, que ce soit à Berlin, à Londres, à Bruxelles, à Paris, etc., on sent que le Parthénon, le Panthéon sont des modèles pour ces architectures dont on doit gravir des marches. C'est comme si on nous préparait aussi à une élévation spirituelle. Et puis, il y a l'atmosphère qui régnait aussi dans ces musées avec ces parquets cirés. Je pense à la citation de Paul Valéry. Mon problème avec les musées, c'est dans un texte qui est resté célèbre aujourd'hui. Il parle ainsi du musée. Il dit « Bientôt, je ne sais plus ce que je suis venu faire dans ces solitudes cirées qui tiennent du temple et du salon, du cimetière et de l'école. » Voilà, je crois qu'il saisit admirablement toute l'ambiguïté de ces lieux qui pouvaient être à la fois des lieux, on l'a dit, semblables à une église de recueillement, de silence, un peu intimidant d'ailleurs, comme, et ça il faut se référer à Baudelaire et aux impressionnistes, des lieux où on se donnait rendez-vous pour parler de peinture, pour discuter, et là on est plus du côté du salon, et pourquoi pas du salon mondain à la Proust. Voilà, Baudelaire il donne rendez-vous à sa mère au Louvre, parce qu'il dit ici c'est un lieu fréquentable, je vais pas te dire de me retrouver dans un café, etc. Donc... voilà, c'est un pour beaucoup d'artistes, le Louvre est ce lieu où ils vont en quelque sorte trouver le calme après la tempête. Hein. La création, c'est quelque chose qui les met dans une tension, ils doivent s'affranchir de beaucoup de choses, ils doivent se débarrasser de beaucoup de choses s'ils veulent créer. Et au fond, c'est au contact... justement de ceux qui ont traversé les siècles et qui sont pour toujours dans ce cimetière dont parle Valéry, qu'ils retrouvent la force de repartir dans la combativité que requiert la création.
Et puis au sein de ces musées se retrouvent ceux qui connaissent, ceux qui savent, les experts.
Absolument. Et... les experts et les artistes ne sont deux catégories quand même bien distinctes. C'est-à-dire que les artistes ont toujours aussi, contrairement à ce qu'on imagine, eu plaisir à débattre sur l'art, et à faire mentir cette formule comme quoi eux, leur domaine est celui de l'art exclusivement. C'est pas vrai, voilà. Si on se retrouve au Louvre, c'est aussi pour discuter, pour échanger entre pairs. Le critique d'art, lui, s'il fallait le définir, doit s'extraire en quelque sorte des modes, des écoles, et peut-être même de son propre goût personnel pour jeter sur son époque générale un regard. Prétendument objectif, est-ce qu'il y arrive ? C'est pas si sûr, j'en suis pas si sûre. Mais en tout cas, c'est ce qu'il prétend faire. Et donc, d'où le conflit qu'il y a aussi entre les artistes et les critiques d'art. Hein.
Et quand vous dites pas si sûr, c'est parce que les experts sont aussi marqués par le ton qui est le leur.
Exactement. Ils sont pas aussi infaillibles qu'ils croient l'être. J'ai presque envie de dire heureusement, d'ailleurs. On regarde toujours une œuvre d'où l'on vient. Et l'œuvre elle-même appelle en nous des choses qui sont très, très intimes, qui appartiennent à l'histoire collective, à notre histoire personnelle. On le sait tous. Et je vois pas pourquoi les critiques d'art seraient, comment dire, à part et, comment dire, dispensées et même d'engager leur propre subjectivité dans le jugement esthétique. C'est pas possible et c'est une bonne nouvelle que ça ne soit pas possible.
Pourquoi ?
Parce que il y a des problèmes qui se résolvent rationnellement et puis il y a... Ce qu'on appelle les chefs-d'œuvre de l'art, que ce soit en musique, en peinture, en poésie, qui par essence échappent à la seule explication rationnelle. La plupart des artistes le disent, ils ont un projet avant de créer, c'est rare qu'ils se jettent comme ça à corps perdu sans savoir du tout ce qui va advenir. Ils ont un projet et l'œuvre commence à se faire au moment où ça bascule, au moment où l'œuvre conduit la danse et où ils sont en capacité d'écouter ce qui advient et d'entrer dans le rythme qui advient. Et alors, et seulement alors, ils vont pouvoir prendre à nouveau du recul, regarder ce qu'ils ont fait, repartir dans ce dialogue avec l'œuvre. Et c'est à la fin seulement qu'ils verront ce qu'ils ont accompli. Il y a cette formule de Soulages que j'aime beaucoup qui dit « c'est ce que je fais qui me dit ce que je cherche ». Donc ça tord le cou aussi à cette croyance selon laquelle l'artiste saurait exactement ce qu'il veut faire, veut dire, veut partager avec le monde. Et quand on parle de la dimension universelle d'une œuvre d'art, c'est précisément tout ce qui échappe à l'artiste qui en fait la dimension universelle et non pas le petit moi, entre guillemets, qui marquerait voilà, son temps de son empreinte. Ça, c'est ce qu'on appelle les peintres mineurs. En général, ils produisent des documents sur leur époque. C'est très intéressant pour les historiens et les musées sont pleins d'œuvres documents. Mais en aucun cas, on a affaire à exclusivement des chefs-d'œuvre au musée. Ça, il faut, voilà, c'est peut-être pas le propos des conservateurs de musées d'ailleurs, et je pense qu'ils ont intérêt à montrer tout ce qui se faisait en son temps.
Nous allons marquer, si vous le voulez bien, une deuxième pause musicale.
Laissez-les dans les cartons, les plans de la planète. Faites-les sans moi, n'oubliez pas les fleurs. Quand ces rétroviseurs-là passent par la tête, j'ai du feu sur le gaz et je m'attends ailleurs. Je fais que passer ma route. T'as vu celle tracée, passer entre les gouttes et va les belles. Parole après parole, note après note, elle voulait tout savoir sur ma vie. retourner cette fois ma clé dans ses menottes. Cette fois ma langue dans sa bouche et j'ai dit je fais que passer. Pas vu celle tracée, passée entre les gouttes, Eva des belles.
La troisième partie de l'émission Plein Feu, consacrée aujourd'hui à l'historienne de l'art et conférencière Pauline Pons.
L'art mène-t-il à la spiritualité ?
Alors, si on se place du côté de l'historien spécialisé dans la période du Moyen-Âge, art et spiritualité ne font qu'un. Pendant 1000 ans, il n'y avait pas d'art profane d'ailleurs. Et les œuvres que nous jugeons artistiques aujourd'hui étaient des véhicules, si je puis dire, pour l'âme, hein. Enfin, étaient censées nous amener vers Dieu, que ce soit dans l'architecture, la musique ou la peinture. Il y a beaucoup à dire sur cette question, beaucoup, beaucoup. L'Église, évidemment, a joué son rôle, on en parlait tout à l'heure. Elle a parfaitement compris cette dimension transcendantale, j'ai envie de dire, de l'art. Et l'Église sait peut-être mieux que quiconque que pour aborder la question divine, ce n'est pas la seule raison qui va nous permettre d'entrer justement dans la spiritualité. Et de ce point de vue-là, elle a trouvé pendant des siècles une alliée, ou un allié, je ne sais pas, l'art, est extraordinaire parce que, précisément, les artistes œuvrent aussi pour ouvrir quelque chose en nous qui s'apparente, certains appellent ça la spiritualité, d'autres le sacré, d'autres encore l'inconnu, l'invisible, je ne sais pas comment le nommer. Et voilà. L'Église était au courant de ça et savait que l'art était d'une certaine manière une porte ouverte sur cette dimension. À l'inverse, l'inverse, il y a eu dans l'Église les iconoclastes, hein, ceux qui ont condamné les images, toutes les guerres de religion aussi qui ont eu lieu autour de cette question, enfin bref. Et l'art ne devait pas être trop sensuel, ne devait pas être trop émouvant, ne devait pas être trop charnel, etc. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. C'est une histoire un peu d'amour, mais entre l'Église et les artistes, mais aussi avec pour le coup, on pourrait aussi reconnaître à l'Église une volonté à un moment d'appliquer à l'art, c'est ce qu'on appelle le Concile de Trente, des directives un peu naïves, quoi. L'art doit éduquer le croyant, l'art doit séparer le profane du religieux, l'art doit parler directement au cœur du croyant. Et donc le Caravage, par exemple, va répondre à certains de ces critères. Et puis, par ailleurs, on le sait tous aujourd'hui, le Caravage est admiré dans notre époque contemporaine pour sa dimension sensuelle et presque sexuelle, j'ai envie de le dire, donc qui pourrait paraître complètement antinomique avec l'aspiration spirituelle de l'Église du XVIIe, et pareil du Bernin avec l'extase de Sainte Thérèse. Donc voilà, c'est un vaste sujet. Je pense que je peux vous dire, c'est que mon expérience m'amène à penser que les religieux, ceux qui croient en Dieu, ne sont pas forcément les meilleurs commentateurs des œuvres religieuses, parce qu'ils vont vouloir y trouver absolument une interprétation, un commentaire biblique, et de ce point de vue-là, enfermer l'œuvre un petit peu, enfin la réduire justement à quelque chose qui relève davantage de la communication que de l'art universel dont nous parlions tout à l'heure. Et ça, il y a un homme très important au XXe siècle qui s'appelle le Père Couturier, qui a compris ça, et qui l'a tellement bien compris que lui-même a décidé, pour des projets qui aujourd'hui sont au patrimoine de l'UNESCO, au minimum monument historique en France, de faire aussi appel plutôt à des artistes, alors athées, je ne sais pas, c'est pas le mot qui convient forcément, mais en tout cas qui ne revendiquent pas d'appartenance religieuse. Et donc le Père Couturier, de faire appel à Le Corbusier pour le couvent de la Tourette, l'église de Ronchamp, Matisse pour la chapelle de Vence, etc., etc. Et précisément parce que là, il a posé, je trouve, quelque chose de fort. Il a dit, voilà, non seulement il ne suffit pas d'être religieux pour apprécier l'art sacré, mais il y a dans l'art des mystères qui nous dépassent tous, et au fond, il vaut mieux aller chercher ceux qui côtoient ces mystères, ceux qui les mettent en scène, ceux qui leur donnent une apparence sensible, pour accéder plus directement à Dieu. Et là, c'est fabuleux, parce que des artistes comme Matisse, à la fin de sa vie, Matisse a dit « Quand je peins, je suis religieux ». Donc, la boucle est bouclée, Picasso lui en voulait, et Matisse lui a dit « Non, non, je suis sûre qu'au fond de vous, vous recherchez aussi la quiétude de la première communion, et moi, quand je peins, je veux provoquer ça chez l'admirateur, l'amateur d'art, je veux qu'il soit dans cet état de quiétude, de paix intérieure forte pour accéder à, voilà, à cette dimension universelle de l'art. Voilà, donc il y a pour moi un élan très intéressant à regarder du côté du Père Couturier, qui est un dominicain au XXe siècle, parce qu'il a voulu sortir l'Église de l'art saint-sulpicien, d'une part, qui faisait ravage à la fin du XIXe, et de l'appauvrissement, précisément, de l'art sacré, comprenant parfaitement que, non, il fallait les meilleurs artistes pour voir le céleste, hein, voir les anges même, j'ai envie de dire. Donc voilà, un Chagall qui est juif, et je crois même qu'on a fait appel à Fernand Léger, a été sollicité. Voilà, ils ont tous un moment eu à cœur Bazaine, bien sûr Soulages avec les vitraux à Conques. On leur a pas demandé un certificat de première communion. On a compris que dans leur art, il se passait quelque chose qui est de l'ordre de l'ouverture vers un monde qui ne saurait en aucun cas se limiter à l'expression rationnelle et à la compréhension, justement, qui dépasse complètement... la compréhension, voilà. On n'est pas dans la compréhension devant une œuvre d'art, c'est d'où votre question. Excusez-moi si je suis très longue, mais voilà.
Je vous propose de marquer une dernière pause musicale.
If the night turned cold and the stars looked down and you'd hug yourself cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. Belly's empty and the hunger's so real. You're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. You ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both, but our feelings show. Some would say, let you go your way, you only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Search the room, one friendly face is all you need to see. And if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I
I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, it's probably me.
Dernière partie de l'émission Plein Feu en compagnie de la conférencière Pauline Ponce.
Le spectateur d'une œuvre d'art doit-il lui aussi être dans une ouverture particulière pour être touché ?
Pour le coup, c'est votre question qui me touche beaucoup parce que c'est quelque chose que je vis pour le coup avec parfois une relative souffrance, faut peut-être pas exagérer, mais j'ai un problème actuellement avec les musées qui rencontrent trop de succès et je vais parler là de l'affluence. Vous avez vu que nos ancêtres subissaient déjà, hein. Mais je ne pense pas personnellement je ne suis pas la seule du tout, hein, mais qu'on puisse apprécier une œuvre d'art à sa juste valeur dans un brouhaha digne de la gare du Nord. Il y a quelque chose dans le musée qui a à voir, et là encore Valérie a raison, si ce n'est avec le temple, avec le cimetière, dans la mesure où ce sont des œuvres qui sont coupées de la circulation de la vie, elles ne vont plus repartir dans la société, elles sont là pour l'éternité, entre guillemets. Et du coup, nous sommes au contact de la mort, en fait, quand on va au musée. Ça, c'est Malraux, hein, qui dit qu'il n'y a pas de création sans conscience de la mort. En fait, que la création n'est simplement que l'expression de la conscience de la mort, d'où l'enquête existentielle dont je parlais, voilà, à l'instant. Un musée, c'est le lieu d'une enquête sur notre vie, c'est-à-dire sur notre mort. Et quand vous avez 15 visiteurs devant une œuvre d'art, pardon, mais parce qu'il faut parler quand même d'un phénomène de notre époque qui est le tourisme de masse, même si ça fait très élitiste d'en parler, j'ai un problème avec ça, moi. J'ai vraiment un problème avec ça. Et je pense qu'il va falloir que les musées réfléchissent à d'autres formes d'accès à l'art au XXIe siècle pour échapper à ce phénomène.
Ce que vous dénoncez, c'est un peu cette course-poursuite d'après un nombre toujours grandissant de visiteurs et aussi une marchandisation sous de multiples formes, hein. On connaît tous les cendriers, les tasses, enfin les mugs,
les cravates,
voilà, les coussins, voire les foulards, mm-hmm. Aux couleurs, enfin
de l'imprimerie,
voilà.
Oui. Là, je pense qu'on nous prend parfois un peu, je sais pas moi. Enfin, je veux dire. Les musées ont besoin de s'autofinancer actuellement, c'est très clair. Et donc, c'est parfois difficile de quitter un musée sans passer par la boutique, hein, vous avez remarqué. Donc, il y a comme une sorte d'injonction à acheter quelque chose. Alors même que, à l'instant d'avant, on nous a interdit de toucher, de parler, d'échanger. Voilà, il y a un paradoxe dans les musées, parce qu'ils nous remettent de plein fouet dans la société de consommation. J'ai quelque chose aussi là qui percute un peu je vais pas dire la contemplation, mais enfin voilà, on ne sait plus trop où on en est quand on sort d'un musée de ce point de vue-là.
Est-ce que ce n'est pas une manière de s'approprier l'œuvre, puisqu'on ne peut pas la toucher, qu'on ne l'aura jamais chez soi ? C'est une manière de ramener un petit bout de la Joconde ou...
C'est très vrai. Et moi qui vous dis ça, je ne suis pas la dernière à acheter un petit carnet, souvenir. Avant, j'achetais systématiquement des cartes postales parce que je voulais, comme vous dites, avoir un souvenir de l'expérience que j'avais eue. Si, sans doute, ça répond à ça, bien sûr, oui.
Et pour en revenir à cet excès de foule, est-ce qu'on doit aller vers un laisser-passer? Mais alors, comment l'attribuer?
Oui, là, vraiment, il y a une vraie réflexion et on... si je peux être un petit peu... je ne sais pas comment dire, un peu rentre dedans, je vais vous dire que là, on va voir... les musées vont révéler leurs véritables intentions. Je pense qu'on est au pied du mur, entre ceux qui veulent faire du fric, en gros, et puis ceux qui vont vraiment prendre en compte le confort du visiteur, ce qu'il est censé apprendre au musée, etc. Et vous voyez bien, déjà, il y a plein d'endroits en Europe qui sont touchés au sens presque même physique. Hein. Venise risque de disparaître sous le phénomène du tourisme de masse. Mais on parle aussi de Pompéi, qu'on va devoir mettre sous une cloche, etc. Voilà, moi j'adore le musée d'Orsay, j'y travaille beaucoup, j'ai fait un livre avec eux. Mais la dernière exposition sur Van Gogh, combien d'amis m'ont dit « mais c'était épouvantable, j'ai pas pu voir les œuvres, j'ai eu l'impression d'être dans le métro avec des gens qui me marchaient sur les pieds ». Et vous voyez, par rapport à votre question du spirituel aussi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le positionnement des musées par rapport à ça. Parce que là, je pense que c'est une vraie question de société. Justement, les musées étaient encore des lieux qui ne s'achetaient pas, si vous voulez, qui échappaient à la société de consommation précisément, et dans lesquels on pouvait vivre quelque chose d'unique, et aussi un petit peu pour nos jeunes, un peu dur, un peu rébarbatif à certains égards. Mais moi qui étais prof pendant 20 ans, je peux vous dire que dans les premières semaines, tous les jeunes que j'avais en face de moi venaient me raconter leur expérience muséale avec leurs parents. Voilà. Y compris lorsqu'ils s'étaient ennuyés fermement. C'était parmi leurs meilleurs souvenirs. Ces lieux où on ne pouvait pas manger, rien acheter, où le temps passait très lentement, où on avait l'impression qu'on était coupé du monde aussi. C'est un peu un musée, c'est un voyage dans le temps quand même. Hein. Il y a certains films qui exploitent cette veine. Il y a une dimension fantastique quand on se retrouve face à des momies ou face à des taureaux androcéphales, que sais-je. Il y a une dimension extraordinaire pour l'enfant qui fait appel bien sûr à son imagination. Et ça, le jeune adulte s'en rappelle très bien, hein, au moins autant que que ses sorties au McDo avec ses parents. Donc voilà, dans quelle mesure la société de demain va proposer des lieux comme ça de retrait, où on va pouvoir se revenir aussi un petit peu à son intériorité. Et c'est là encore le lien avec la spiritualité. Je pense à une citation de Chateaubriand à propos de l'Église qui me fait totalement penser à ce que moi j'ai ressenti quand ma mère m'a emmenée enfant au Louvre. J'ai des souvenirs très émouvants de ce point de vue-là. « Qu'ils sont beaux ces bruits qu'on entend autour des dômes », disait Chateaubriand. Et voilà, une citation qui m'a été rapportée par mon père, qui était très sensible aussi, et mon père peignait aussi à cette dimension, c'est-à-dire, comme le temple, c'est vrai, le musée, encore une fois, est cette espèce de poche coupée de la fébrilité du monde, de la turpitude et des bruits du monde, qu'il fait bon de côtoyer, donc dont on a, voilà, comme les marins qui cherchent le phare dans la nuit, voilà, on est heureux de trouver ces endroits, mais on est très heureux aussi d'entendre les bruits de la ville à l'extérieur. Moi, la première, je suis très heureuse souvent quand je quitte un musée, parce que je me suis nourrie sur plein de niveaux. Je ne sais pas lesquels, justement, c'est pour ça que ça échappe à la pure compréhension. Et qu'est-ce que je me sens, en fait, plus disposée à accueillir les bruits du monde une fois cette expérience éprouvée. Et du coup, c'est là où je vois le parallèle entre le musée et l'église, là où le musée a pris un petit peu le relais par rapport aux églises qui commençaient à se vider au lendemain de la Révolution.
En d'autres mots, les musées seraient devenus consommables.
Ben, alors voilà, ce qui me fait penser à ça, c'est que les musées sont à l'image de notre époque. Alors, il y a ceux qui restent pour de bonnes et de moins bonnes raisons un petit peu poussiéreux, et cela, on n'y entraînera jamais nos adolescents. Actuellement, ça, on n'y arrivera plus. Hein. Nous, nos parents y arrivaient encore, mais les ados actuels, ils n'iront plus dans le musée du 19e. Bon. Et puis, il y a le musée d'art contemporain. Voilà, c'est ça aussi qui est important de relever, parce que je ne voudrais pas négliger cette dimension de notre époque. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Le musée est devenu un enjeu politique dans toutes les villes du monde, y compris aux Émirats arabes, hein, avec le Louvre d'Abu Dhabi, etc. Chacun veut son musée, construit par le plus grand architecte du moment, pour y vivre les expériences les plus spectaculaires. Et de ce point de vue-là, les artistes contemporains donnent le change. C'est-à-dire que quand nous parlons d'art sacré, évidemment que nous parlons encore de l'époque de l'art moderne, des Malraux, des Giacometti, des Matisse, des Picasso. Mais depuis les années 60-70, l'art a pris encore une nouvelle direction, pas exclusive, mais quand même une nouvelle direction, à l'image de la société, toujours, hein, Warhol, on en a parlé, Jeff Koons, etc., qui semble absolument plus, d'accord avec cette idée que l'art ne peut s'appréhender que dans le silence, que dans la contemplation. Regardez de quoi sont faites les œuvres d'art contemporaines. On a tous les médias réunis, la vidéo, les installations sur lesquelles on invite les spectateurs à grimper, c'est-à-dire que l'artiste contemporain, héritier aussi de Duchamp, hein, a compris une chose, c'est que c'était le spectateur qui faisait l'œuvre, donc c'est le spectateur qui doit être le plus sollicité sur tous ses sens. Et la contemplation, bon, c'est un peu le truc ringard aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand je parle de contemplation, ou alors on parle de bouddhisme, quoi. Ça peut être éventuellement récupéré par le développement personnel et le bouddhisme. Mais c'est devenu un petit peu ringard. Et ça, on le doit en fait à Marcel Duchamp et à tous ses héritiers qui veulent travailler, et on ne peut pas leur en vouloir, avec les matériaux de leur époque.
Pauline Pons, nous arrivons au terme de cette émission. Y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez partager avec nos auditeurs belges, par exemple, de manière assez succincte, mais les différences qui vous sont apparues avec l'art peint en Belgique?
Ah ben moi, j'aime particulièrement en fait l'art de l'Europe septentrionale. Hein, j'étais à Bruxelles cet après-midi, donc j'ai revu les Bruegel avec une délectation particulière. Ce que j'aime particulièrement dans les Flandres, c'est le refus de l'idéal. Et vous voyez, pourtant j'adore l'art italien, hein, et l'art français aussi, mais quand je parle du refus de l'idéal, c'est que ce qui me touche le plus ici, c'est quand Bruegel parle de la fuite en Égypte, ou du recensement, ou même d'un sujet mythologique comme la chute d'Icare, en mettant au premier plan le paysan qui est en train de passer la charrue, le pêcheur, les villageois qui sont en train de pétrir le pain, etc. C'est-à-dire que ça, je dois dire que c'est mon intime conviction, et je suis complètement fan de Van Gogh aussi, c'est de trouver le sublime dans ce que certains appelleraient le banal. Pour moi, le sublime est dans le quotidien, le plus quotidien. Et ce que l'art a, le plus à nous apporter, c'est cette capacité d'admiration à l'égard de tout ce qui nous environne, et de libération à l'égard aussi des hiérarchies, du beau, du moins beau, etc. En fait, je trouve que quand on monte, plus on monte dans, dans le nord, et plus on est libre, en fait. Voilà. Et encore une fois, l'art italien a produit des chefs-d'œuvre extraordinaires, mais je me sens pour ma part, voilà, plus proche de quelqu'un qui va prendre des mineurs, des mangeurs de pommes de terre comme modèle, que des Vénus hypothétiques qu'on risque de jamais croiser dans la rue, etc. Et je préfère voir la beauté dans la terre cuite plutôt que dans le cristal. Voilà.
Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez retrouver le travail de Pauline Ponce, sachez qu'elle est l'autrice du livre « L'art pas bête pour les 7 à 107 ans » publié chez Bayard Jeunesse en collaboration avec le musée d'Orsay. À très bientôt pour une prochaine rencontre.